Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais mes chers frères, comme depuis plusieurs dimanches, je fais un peu l'impasse sur l'évangile ou l'épître du dimanche pour méditer sur cette grande figure de l'Ancien Testament, le roi David. Donc j'ai commencé en juillet, j'ai fait 3 sermons déjà sur le sujet David et je continue aujourd'hui. Alors peu importe si vous n'avez pas pu écouter les sermons des dimanches précédents, il y a une suite, mais on peut faire un pas, parenthèse, sur ce que j'ai pu dire avant. Quoi qu'il en soit, je résume très rapidement les 3 sermons que j'ai faits au mois de juillet sur David. Au 5e dimanche, j'ai parlé du pardon du David par rapport à Saül, le roi, qui voulait le tuer. Voilà, c'était l'objet de ce sermon. Puis, le sermon suivant, le 6e dimanche, c'était les faiblesses, grandes faiblesses, les péchés du roi David. Il est jeune roi, il fait de nombreux péchés. Et puis, dimanche dernier, suite à la parabole qu'avait fait le jeune prophète Nathan, David se repent et longuement de ses nombreux péchés. Et aujourd'hui, nous allons étudier, méditer, car c'est une méditation en fait que ce sermon, méditer sur la contrition de David. Quelle fut-elle? Comment s'y prit-il pour demander pardon au bon Dieu? Il y a des traces de se repentir, c'est un psaume. Le psaume 50, le psaume miséréré, un grand psaume. Et parce qu'il y a eu ce psaume et une contrition puissante et forte, intérieure et extérieure de David, le bon Dieu a pardonné à ce roi. Les prochains dimanches, nous verrons d'autres choses. Parce qu'au fil des dimanches, je m'aperçois qu'il y a tellement de choses à dire sur David que je pense que ce n'est pas fini du tout, nos méditations sur ce roi David. Et puis ça change un petit peu. On parle dimanche après la Pentecôte, avec les épîtres, les évangiles, mais on les connaît assez bien. Par contre, ces grandes figures de l'Ancien Testament sont assez méconnues et pourtant essentielles. Essentielles. Et nous verrons au fur et à mesure pourquoi, déjà aujourd'hui, cet acte de contrition du roi David, ce miséréré, est un développement assez long, en 21 versets, du pécavi qu'a prononcé David quand Nathan lui fit sentir sa faute énorme, ses fautes très importantes. Pécavi. Et David a fait pénitence pendant 10 jours entiers. Le titre placé en tête du psaume nous reporte à ce qui est raconté au livre des rois, au deuxième livre des rois, chapitre 12. Le prophète Nathan a dit à David, « Le Seigneur a pardonné ton péché. » Mais si les reproches de Nathan ont excité la contrition dans le cœur du prophète, du coupable aussi, parce que David est aussi prophète, un grand poète, 150 psaumes. Et il est prophète, il est roi. Le pardon du Seigneur l'a porté à son comble, cette contrition. Le psalmiste ne doute point de ce pardon, mais il comprend la grandeur de son crime, l'énormité de son crime. Alors il ne se lasse pas de faire appel à l'indulgence divine, à sa miséricorde. Et ce psaume est devenu l'acte de contrition par excellence que répètent tous les pécheurs pénitents de génération en génération. Peut-être, mes bien chers frères, vous est-il arrivé déjà de recevoir comme pénitence le psaume miséréré. Peut-être, je ne sais pas. Mais ne soyez pas surpris si un jour le prêtre vous donne comme pénitence le miséréré. Parce que c'est un très beau psaume. Alors j'ai sous les yeux ce psaume, Vous pourriez chercher, en même temps que je prêche dans vos missels, le psaume 50. Non, faites-le cet après-midi. Et vous verrez. Ça, ce n'est pas votre pénitence, pas forcément. Mais ça sera une continuation de cette méditation sur ce sublime psaume, qui est admirable. Dans la Sainte Écriture, il n'y a aucun autre personnage dont on puisse affirmer qu'il a vécu dans la piété avant son péché et après ses chutes graves. Parce que David, avant ses péchés de jeunesse, est un jeune homme très saint, très pieux. Et après ses nombreux péchés, il redevient pieux. Alors pourrait-on dire que ces péchés sont une parenthèse ? Pas vraiment. Mais ça sera l'occasion pour lui de rebondir. Et ce que je dis de David vaut pour nous tous. Tous, nous avons péché. Et tous, pour nous tous, il faut utiliser nos fautes pour aller davantage vers le bon Dieu. Ce n'est pas dans les psaumes, évidemment, mais je pense en vous parlant de ce petit opuscule, ce petit livre du Père Tissot, qui a fait un ouvrage au 19e siècle, je crois bien, sur l'art d'utiliser ses fautes. Très instructif. Et David a utilisé ses fautes pour ne plus les faire, mais pour être vigilant. Voilà, vigilant pour ne pas retomber dans ses fautes. Les vérités dogmatiques et morales affluent dans ce psaume. David semble avoir fait appel à toutes ses croyances, toute sa foi, pour remuer dans son âme, jusqu'au fond de son âme, toutes les fibres de cette âme qui était dévoyée. C'est ainsi qu'il en appelle à la miséricorde divine. J'ai sous les yeux cette belle traduction de Bossuet. « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté. Selon l'immensité de tes miséricordes, efface mes iniquités. » Il en appelle à la miséricorde de Dieu. Et dans ce psaume, c'est extraordinaire. On peut dire que c'est l'évangile avant l'évangile. La miséricorde de Dieu, c'est le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'abaisse à nous pour nous relever vers lui. C'est ça la miséricorde de Dieu. Le cœur qui voit nos misères et qui s'abaisse dans son incarnation, dans sa passion, pour nous rehausser vers lui. Et David croit à ces vérités, bien qu'il n'ait pas l'évangile, mais il annonce l'évangile, avant l'évangile. Il rappelle également la persistance des péchés, même après le pardon reçu. « Lave-moi complètement de mon crime et purifie-moi de mon péché. Lave-moi. » On verra plus tard, bien sûr, dans le psaume, en filigrane, bien que dans l'Ancien Testament, ça n'a pas encore l'objet, le baptême. L'offense directe faite à Dieu pour toute faute, même contre le prochain, au verset 6. « C'est toi, toi seul que j'ai offensé. » J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En offensant, en tuant Uri, l'époux de Bethsabée, il a offensé, bien sûr, Uri, mais au-delà d'Uri, Dieu lui-même. Nos offenses offensent Dieu. C'est très important. Parfois, on dit oh, « je suis sans péché ». Et puis, qu'est-ce que ça regarde le bon Dieu, mes péchés ? J'ai volé, mais j'ai menti, j'ai des gourmands, etc. Dans quoi ai-je offensé le bon Dieu ? C'est Dieu que j'offense, dans toutes mes fautes. Ah, si nous connaissions davantage le bon Dieu, nous pécherions moins, c'est évident. Et David voit dans ses péchés l'offense faite à Dieu. « C'est toi seul que j'ai offensé, » dit David. Il affirme l'existence du péché originel, au verset 7. « C'est dans l'iniquité que j'ai été enfanté. C'est dans le péché que ma mère m'a conçu. Et il parle du péché originel. Tous les commentateurs, saint Jean Chrysostome, saint Ambroise, saint Augustin, disent la même chose sur ce verset. Ils confessent l'existence du péché originel. Donc il connaît la Sainte Écriture, bien sûr. Il est nourri des Saintes Écritures, David. Il a lu Moïse. Il connaît la loi. Il connaît bien. Il est pétri de ces vérités révélées, le péché originel. Et puis la nécessité de la grâce qui pardonne et réhabilite. Au verset 9, 11 et 14. Ôte mon péché avec l'hyssope pour que je sois pur. Purifie-moi et je serai plus blanc que la neige. Au verset 9. Et voyez, ce verset 9, aux messes du dimanche, aux messes chantées, on commence avant la messe par l'aspergesse. Vous avez déjà noté cela ? Le psaume 50, Asperges me domine, il se pointe d'abord, c'est le psaume 50. C'est un verset du psaume 50. Vous y penserez dimanche prochain. Oui. Quand le prêtre asperge les fidèles, eh bien, il purifie. C'est un sacramental, ce n'est pas le baptême, bien sûr, mais c'est un sacramental qui purifie des fautes. L'eau bénite purifie des fautes vénielles. C'est un sacramental qui agit selon l'état de mon âme. Les sacrements agissent directement, les sacramentaux agissent selon la foi de celui qui l'utilise. Et on foi dans ces gestes, dans ces symboles qui réalisent quelque chose. Ce n'est pas que des symboles. Le symbole montre quelque chose qui est efficace dans le sacrement et dans le sacramental. Et là, David parle du baptême. Et qu'est-ce que c'est que cette hyssope, l'hyssope ? L'hyssope, teinte du sang des victimes, servait, donc dans l'Ancien Testament, à faire des aspersions en un sacrifice expiatoire. David prend ici ce mot dans un sens figuré. L'hyssope est le symbole de la grâce appelée gratia sanans, la grâce qui purifie. Si l'âme devient plus blanche que la neige, la tache du péché ne laissera pas de trace. Et saint Ambroise nous dit à ce propos, la neige, bien que blanche, peut être salie et devenir noire, la boue. La grâce que tu as reçue sera perpétuelle. Saint Ambroise dit que David parle de cette grâce du baptême, par l'hysope. Donc cette aspersion avec ce rameau. Bien des vérités sont contenues ainsi dans ce psaume, et ça n'est pas fini. Donc voyez ce que je disais au début, ces vérités données par David, qui est prophète, à ce moment-là, les sentiments dont le psalmiste en accompagne l'expression contribuent à donner au psaume un caractère tout évangélique, l'évangile avant l'évangile. Toujours sur cette grâce qui pardonne et réhabilite, les versets 11 à 14. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur, Seigneur, et renouvelle au-dedans de moi un esprit ferme. Ne me rejette pas de devant ta face et ne m'ôte pas ton Esprit Saint. Par le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement un esprit de santé, non, c'est un esprit de sainteté. Santé spirituelle, donc sainteté. Puis voyez, un esprit ferme. Ça, c'est la vie chrétienne. La fermeté dans nos bons propos, dans nos résolutions. Parfois, nous flageolons dans nos résolutions. On est timide, on est craintif. Vais-je y arriver ? Je ne suis pas capable. Comment ? On doute de Dieu ? On n'a pas le droit de douter de Dieu. Dieu est puissant, Dieu est fort. Et nous sommes forts de sa force. Saint Paul dira, c'est quand je suis faible que je suis fort. Humainement, je suis faible, évidemment. Je sais mes fragilités, et David les confesse. Mais il avoue aussi, il confesse, il affirme la force de Dieu. Et par conséquent, je suis fort dans la force de Dieu. Rien ne peut m'arriver de mal, puisque Dieu est avec moi. Et il prie, voyez, renouvelle autour de moi un esprit ferme. C'est un impératif, comme si on donnait des ordres au bon Dieu. Mais on le fait tout le temps, dans les prières. Le Paternoster, ce sont des ordres au bon Dieu, des ordres pleins d'espérance. Que votre règne arrive, que votre volonté soit faite, etc. Il n'y a que des impératifs dans notre Père. On donne des ordres au bon Dieu. Dieu veut se faire prier. Il veut nous donner ce dont nous avons besoin. Voilà un peu ces belles choses, belles réalités que David a chantées. Il avait le cœur brisé de douleur. Et parce que Dieu, par Nathan, a vu un cœur brisé, David n'est pas mort. Alors qu'il avait dit, on a vu dimanche dernier, cet homme doit mourir après tous ses péchés. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Mais David fera pénitence. David aurait pu cacher ce péché. Ça n'a pas été le cas. Nathan lui a dit, ce que tu as fait de mal, c'était en secret. Mais ce sera publié parce que tu as été scandaleux. Parce que c'est un péché de roi. Ce n'est pas un péché d'un valet. C'est un péché de roi. Donc c'est caché, mais ce sera public. Un peu comme plus tard Saint-Pierre. Les reniements de Saint-Pierre, c'est un péché de roi aussi. C'est un péché de roi. Saint-Pierre, quand il renie trois fois notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas grand monde. Mais Saint-Pierre ne voudra pas que ses péchés, ce triple reniement, soient cachés. Parce que c'est un péché de roi, de pape. Donc c'est public. Et aussi, le revers de cette médaille de ses péchés, et de David et de Pierre, c'est pour l'humilité des pécheurs. D'exemple aussi. L'exemple d'une vraie contrition. Une vraie contrition. Une contrition sincère. Parfois, on peut dire ses péchés au-dessus de tout le monde, mais c'est par orgueil. Une fausse humilité, car on sait aussi déguiser l'humilité. Vous pourrez lire la façon dont Salut-Marie de Montfort stigmatise cette fausse humilité et ce véritable orgueil. Dans l'amour de la sagesse éternelle. Bref, ce n'est pas le propos de ce matin. Mais en tout cas, et pour David et pour Pierre, qui sont Saint David et Saint Pierre après leur péché, la confession publique de leur péché, c'est pour une plus grande humilité et une leçon pour nous, pour eux et pour nous. Pour eux et pour nous. Eh bien, chers frères, imitons les saints, non pas dans leur péché, mais dans leur retour à Dieu, comme c'est consolant de voir que les saints eux-mêmes ont failli d'une façon ou d'une autre, et à plusieurs reprises parfois, mais ils se sont repentis. Et n'oublions pas, ce sera l'objet des sermons à venir, que David, notre Seigneur Jésus-Christ, est de la lignée de David, fils de David. Donc dans cette lignée, dans cette ascendance humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a des pécheurs et des pécheresses. Pourquoi ? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ vient effacer nos péchés. Il est sans péché, mais sa lignée humaine, il y a des saints, des très saints, et puis aussi de grands pécheurs et de grandes pécheresses, pour nous montrer qu'il ne faut pas se décourager, bien sûr. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu éradiquer le péché. Lui qui, sans péché, il s'est fait aussi péché pour nous, dira saint Paul. C'est dans l'agonie au jardin des Oliviers. C'est l'enseignement de l'Église qui explique la Sainte Écriture, Ancien Testament et Nouveau Testament. Comme c'est riche la Sainte Écriture. Et tout l'Ancien Testament se dirige vers notre Seigneur Jésus-Christ, Nouveau Testament. Au centre, la croix. Demandons à ces grands saints qui nous ont précédés, grands pécheurs aussi, mais qui se sont repentis, de nous donner l'espérance de la sainteté, l'espérance de la vie chrétienne, l'espérance du ciel à travers nos difficultés, nos luttes contre nous-mêmes. Nous luttons contre nos fautes, contre nos défauts, comme nous avons parfois du mal à éradiquer tel ou tel défaut. Ne manquons pas d'espérance. Ne manquons pas de confiance en Dieu. Je puis tout en celui qui me fortifie, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.